une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leurs troupes sillonnent le réel. Territoire occupé.
Bienvenue, nous sommes au mois de mai et c'est un nouveau billet d'Afrique. Aujourd'hui, un thème compliqué s'il en est, puisque l'on va parler de Mayotte, à l'heure où j'aurais tout à fait eu envie de vous raconter des nouvelles de Gaza et de l'évacuation qui est en cours d'une centaine de milliers de personnes en vue de l'incursion de l'armée israélienne dans la ville de Rafah. Bref, l'actualité coloniale va malheureusement bon train, mais aujourd'hui, attardons-nous sur un sujet de fond, puisqu'il n'est pas abordé assez souvent à mon goût, et surtout qu'il fait ce jeu de rendre la situation compliquée par le discours qu'en tiennent les médias. Tout de suite donc, Mayotte, qu'en est-il de la présence de la France dans cette île des Comores ? Si je vous parle de Mayotte, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Les Comores. Les Comores, ce sont quelques îles à des milliers de kilomètres de la métropole française, située dans l'hémisphère sud entre l'équateur et le tropique du Capricorne. C'est à l'entrée du canal du Mozambique, à mi-chemin entre Madagascar et l'Afrique. Mayotte, c'est un petit archipel volcanique. Il forme lui-même la partie orientale de l'archipel des Comores. Comprenez la partie la plus à l'est. Il y a deux îles principales qui forment Mayotte, une grande et une petite, appelées Grande Terre et Petite Terre. Mayotte est parfois connue pour ses décors de cartes postales. C'est une île qui a su préserver son environnement naturel et qui possède l'un des plus grands et des plus beaux lagons du monde, délimité par une barrière de corail longue de plus de 160 km, elle-même découpée par une dizaine de passes. Le climat est doux, il est tropical, c'est la destination idéale. Sa grande sœur, la Réunion, est une destination bien plus prisée, et pourtant, si les gens savaient les splendeurs de l'île, à commencer par celle de son sublime lagon. Mayotte est ignorée de la métropole, sauf quelques échos de violence. Mayotte est une terre où tout est extrême, l'extrême beauté de l'île, l'extrême violence d'une jeunesse en déshérence. J'aurais pu parler de cette violence qui est aussi celle des décassages. Ce sont la destruction d'habitats en tôle dans lesquels vivent les personnes comoriennes illégales qui étaient faits à la base par des milices maorées qui étaient très en colère contre l'immigration, jugeant que les problèmes socio-économiques de l'île étaient la faute des immigrants illégaux maorés. Et puis aujourd'hui, ce ne sont plus du tout que les milices qui font ce sale travail, c'est aussi la préfecture, les forces de police. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a des décassages, il y a des personnes à la rue et qui n'ont pas beaucoup d'autres choix, puisqu'elles sont sur une île, que d'aller déboiser malheureusement un nouveau bout de forêt et de se recréer de nouveaux habitats plus précaires, puisqu'il n'y a aucune solution de relogement. J'aurais pu parler de cette violence, de ces milliers de mineurs isolés, de ces 12 000 morts, sans doute beaucoup plus, noyés dans le lagon lors des traversées en Kwassa-Kwassa depuis l'île comorienne d'Anjouan, qui se situe à seulement 70 km et dont on aperçoit au loin la silhouette montagneuse. Mais quand on entend Mayotte, on pense à la pénurie de l'eau. Quand on entend Mayotte, on pense aux coupeurs de route et aux violences, aux raquettes. Les gens qui viennent du reste des îles des Comores rejoignent Mayotte par des bateaux, des embarcations appelées les Kwassa-Kwassa. Ces bateaux sont parfois interpellés par les gardes comoriens eux-mêmes et le plus souvent par les gardes français. Les gardes, quand ils interpellent des gens, les mettent en centre de rétention. Mais bien souvent, les personnes parviennent à débarquer sur une plage de cet Eldorado français et se retrouvent dans l'unique option qui leur est présentée, l'illégalité. De petits commerces en petits trafics, vivre dans des bidonvilles, retrouver une famille qui est là et qui pourra vous aider, espérer trouver un petit travail au black. Alors que les membres du collectif citoyen appelé Force Vive, un collectif maoré qui lutte notamment contre l'immigration clandestine, clame qu'à cause du droit du sol de la France, les arrivants illégaux sont séduits et vivent une vie merveilleuse, on peut voir une réalité très différente. Le droit du sol, en réalité, en France, n'existe pas comme on l'imagine. Le droit du sol, c'est-à-dire avoir le droit de devenir français parce qu'on est né là, n'existe pas. Ce qui existe, en revanche, c'est l'impossibilité de virer du territoire quelqu'un qui serait né sur le territoire français, et ce jusqu'à ses 16 ou 18 ans. À partir de 16 ans, des procédures peuvent être engagées. À partir de 18 ans, on peut demander la nationalité française, qui n'est pas automatiquement accordée. Il y a un phénomène qui se passe, qui est d'aller faire naître son enfant sur un territoire français pour lui offrir de meilleures options de vie, de meilleures chances. Il y a donc des femmes enceintes qui prennent les bateaux, les kwassa-kwassa, et qui risquent leur grossesse, leur vie, la vie de leur enfant, pour pouvoir arriver dans un hôpital français, mettre au monde ce nouveau-né qui aura une chance, lui, plus tard. Les mères, elles, restent dans l'illégalité. Je vous donne le cas d'une personne qui a été expulsée pendant la grande opération policière qui a été menée sur l'île de Mayotte il y a un an par Gérald Darmanin. Cette mère s'est fait virer, elle a été expulsée de l'île lors de l'opération policière Wambushu en 2023 et ses deux enfants étaient restés à Mayotte. Elle souhaitait donc évidemment y retourner depuis un an, elle a économisé, elle a travaillé pour pouvoir repayer un passage. Et pendant le passage, elle s'est fait tirer dessus la semaine dernière. Heureusement, elle n'est pas décédée, mais la voilà retour à la case départ sur l'île d'Anjouan, sans ses deux enfants, à l'âge de 29 ans. Ses deux enfants sont petits et elle ne peut pas être avec eux, puisque ce que dit la loi, c'est que Mayotte, ça n'est pas les Comores, Mayotte, c'est la France. Une histoire entremêlée entre la France et ses îles est forcément une histoire coloniale. Et il ne faut jamais oublier que si la France a accepté gracieusement de protéger cette île, c'est parce qu'elle y avait des intérêts. Mayotte est-elle française dans un archipel qui ne l'est plus? Comment peut-elle compter près de 50% de migrants étrangers, en réalité comoriens à 90%, et que fuient ces derniers? Comment un département français peut-il, malgré ses ressources, présenter le tableau social et sécuritaire décrit? Le texte que je m'apprête à vous lire est en grande partie le travail de Sophie Blanchy, une chercheuse qui est franchement calée sur le sujet, en tout cas bien plus que moi. Elle est anthropologue, directrice de recherche émérite au CNRS, elle est enseignante dans deux universités parisiennes. Et elle a publié ce texte très intéressant dans la revue Carnet de terrain. Mayotte, comorienne ou non? C'est pour des raisons géostratégiques que Mayotte, territoire de 374 km² et de 300 000 habitants, est devenue française en 1841. Des raisons qui ont évolué au XXe et XXIe siècles, mais restent des non-dits de la situation actuelle. La région est notamment un centre d'écoute et de surveillance du canal du Mozambique et une zone économique de 2,5 millions de km² au sein d'une zone maritime sous juridiction française de 17 millions de km². Les Comores sont, au cœur de l'océan Indien, un lieu de passage majeur des grandes voies de navigation en direction ou venant de la mer Rouge et du canal de Suez. Ce qui aurait pu assurer la prospérité de l'archipel fut la cause de son malheur. Les trois autres îles qui formaient des royaumes séparés sont colonisées en 1912. Mayotte est alors le chef-lieu, mais l'île de la Grande Comore et d'Anjouan, qui sont les îles les plus grandes, plus peuplées, avec des élites sociales, politiques et économiques plus structurées, reprendront leur place dominante au moment de l'autonomie interne de l'archipel en 1961. Dans ces années-là, en 1958, l'administration est d'ailleurs transférée vers la Grande Comore, ce qui prive Mayotte des emplois publics occupés par des notables des quatre îles qui étaient mariés sur place pour avoir dans ce régime matrilocal une vie domestique et familiale. Il fallait, en cet endroit, implanter un morceau de France et pas n'importe lequel, une présence militaire. Dès 1975, la base de la Légion étrangère, auparavant dans la Grande Comore, fut transférée à Mayotte, ce qui a peu à posteriori prouvé la préméditation. Des positions prises par stratégie dans cet océan, il y en a eu plusieurs de la part de la France. On peut penser par exemple à Djibouti. En 1976, un an plus tard, y fut installée une base navale de grande dimension, qualifiée plus tard par le ministre de la Défense nationale de « point d'appui principal du théâtre de l'océan Indien » pour « assurer la surveillance des zones économiques exclusives associées à l'ensemble des îles de la zone de responsabilité, contribuer à la lutte contre l'émergence de nouvelles menaces liées au trafic et conserver une capacité régionale d'intervention rapide ». L'aveu est là. Tous les discours hypocrites d'aujourd'hui ne pourront masquer cette vérité. Ce n'est en rien par solidarité française avec les Mahorais que notre drapeau flotte aujourd'hui sur l'île, c'est pour de solides intérêts géostratégiques. L'indépendance des Comores s'est préparée dans les années 70, après celle de Madagascar en 1960. Mais sur l'île de Mayotte, la population principalement rurale craignait la domination de l'élite urbaine des îles voisines. Or, un groupe social spécifique à Mayotte n'a pas non plus intérêt à l'indépendance à l'époque et crée un mouvement pour une Mayotte française. Il s'agit des descendants de femmes de Sainte-Marie de Madagascar, îles passées sous autorité française en 1750, et de métropolitains ou créoles qui, à Mayotte, sont devenus les premiers fonctionnaires coloniaux, puis les élus locaux. Financés par les services français, ces notables, restés très francophiles, jouèrent la carte du maintien du niveau de vie. Une partie de la population, menée par les femmes, se rallie à leur projet. Pour l'État français, Mayotte devait rester française. Elle le restera. En décembre 1974, un référendum est proposé aux Comores pour décider entre l'indépendance et le maintien dans la République française. Deux ans plus tard, en février 1976, un deuxième référendum fut organisé sur cette seule île de Mayotte. C'est une première entorse au droit international. Que pouvait bien peser l'unité du peuple comorien ? Entre référendum et assimilation, il s'en est fallu de peu au niveau du gouvernement français pour que le référendum de 1974, le premier, soit adressé non aux populations, mais à la population des Comores. C'est le compte par île qui est retenu. Et 63,22% des électeurs maorais votent contre l'indépendance. Moins de deux ans plus tard, le deuxième référendum confirme 98,83%. La réponse, les indépendantistes ayant été réduits au silence par des violences ou des menaces. Depuis, aucune critique ou réserve n'est possible à l'égard de la départementalisation, sous peine d'être accusée de collusion avec l'ennemi comorien qui voudrait dominer Mayotte, tandis qu'en Union des Comores, la revendication de Mayotte est au contraire un préalable obligatoire à toute déclaration publique. La relative richesse de Mayotte attire différents profils de migrants issus des Comores, mais le gouvernement français instaure en 1995 un régime de visa qui entraîne aussitôt un trafic des passeurs pour les voyages clandestins, parfois mortels. En 1999, un calendrier de réforme sur 10 ans, en vue de l'assimilation législative, c'est-à-dire de l'intégration comme un département, est approuvé à 73% par la population, mais celle-ci ne se fera pas sans heurts. Les Mahorais, qui avaient cru à l'assurance de garder leur mode de vie et leurs coutumes, sont pris dans la reconstitution de l'état civil qui sépare les Français de Mayotte par un double et même un triple droit du sol, des étrangers des autres îles. Elle leur impose d'adopter le statut personnel de droit commun par une transformation du droit local. Donc les mariages musulmans, qui sont la très grande majorité, ne sont plus reconnus aux civils, ce qui multiplie d'un coup les mères célibataires et ignore juridiquement l'existence des pères, contribuant à aggraver la crise de la jeunesse et des normes éducatives, crise que l'on peut encore constater aujourd'hui et qui participe grandement à l'insécurité. En 2009, le statut de département d'outre-mer est accepté par référendum, encore, avec une écrasante majorité par les Mahorais, qui participent à plus de 61% à ce vote, mais qui aujourd'hui attendent toujours de meilleures conditions de vie, tandis que les crises politiques et économiques se succèdent aux Comores. La départementalisation de l'île en 2011 n'a fait qu'accroître les flux en provenance de la Grande Comore et d'Anjouan. Mayotte est le moins doté des départements d'outre-mer, les DOM, comme on dit. Avec un PIB par habitant 3,4 fois plus faible que celui de métropole, mais près de 7 fois plus élevé que celui des Comores. Malgré une immigration significative des Mahorais de 18-35 ans vers la métropole, pour des études, pour les premiers emplois, la courbe démographique de l'île ne cesse de grimper, à la fois sous l'effet de l'immigration et d'un taux de natalité important. À Mayotte, la moitié des migrants ont des titres de séjour et une bonne part des autres sont intégrés dans une économie informelle qui s'organise en réseau de clientèle, producteurs ou révélateurs de hiérarchie sociale. Il y a des Comoriens qui raillent ce qui peut être appelé une colonisation consentie de la part des Mahorais, mais d'autres parmi les plus pauvres forment la principale main-d'œuvre de Mayotte dans l'agriculture, la pêche, le bâtiment, tout en restant tenus à l'écart des nouvelles ressources. Ces inégalités de statut s'inscrivent dans une société comorienne par ailleurs très hiérarchisée. Le coût très élevé du voyage clandestin, avec les passeurs pour venir avec ces embarcations qu'on appelle les kwassa-kwassa, exclut de faire des va-et-vient. Les dérogations aux droits des étrangers qui sont spécifiques là-bas empêchent nombre de régularisations qui par ailleurs ne permettent pas de circuler et de travailler dans l'espace national. Mayotte devient donc une sorte de nasse dans laquelle les migrants s'accumulent, comme l'avait déploré un député maoré en 2015, et les destructions d'habitats les maintiennent dans cet asservissement, sujétion, en réduisant à néant les quelques programmes d'intégration en cours. Ainsi, la présence de la France à Mayotte, à la fois indéfendable et localement génératrice de ressources au prix d'effets pervers grandissants, produit chez tous les acteurs un double discours. Une nouvelle élite comorienne, en partie issue de l'ancienne, est représentée par une classe binationale relativement aisée et mobile, qui entretient une posture ambiguë de citoyens français assurés de leurs droits et de citoyens comoriens réclamant la réintégration de Mayotte. Or, ce sont les Comoriens les plus démunis et dominés dans leur île qui partent à Mayotte sans visa. Aussi, la société mahoraise entretient-elle un rapport ambigu aux autres Comoriens. D'un côté, les Mahorais se sentent menacés par deux figures de Comoriens, non seulement les dominants, dont ils craignent l'arrogance et qu'ils ont connu par le passé, mais aussi les dominés qui les, ouvrez les guillemets, tirent vers le bas. En particulier les ruraux de l'île d'Anjouan, la plus proche, cherchant désespérément à sortir de la misère, ou encore les Malgaches et les réfugiés africains qui choisissent cette route pour se rapprocher de l'Europe. De l'autre, la proximité entre les sociétés insulaires rend ces migrations acceptables. 46% des enfants nés à Mayotte seraient issus de couples mixtes maorais migrants. Les mariages entre natifs des différentes îles, qui n'ont pas cessé, montrent l'intimité sociale et culturelle des populations. Les insulaires partagent la même langue, avec des différences régionales entre l'île de l'Est et de l'Ouest, le même islam, les mêmes célébrations du cycle de vie, la même règle de résidence conjugale matrilocale, la même conception de la famille malgré les inflexions patrie ou matrimillénaire selon les îles et les milieux sociaux. L'absence d'unité politique précoloniale de l'archipel est brandie pour justifier la partition de Mayotte, mais en réalité plusieurs exemples ont montré la difficulté d'une construction nationale d'un petit état pluri-insulaire, donc qui a plusieurs îles et qui vit largement de transferts d'argent de ses migrants. Une petite dédicace au Cap-Vert au passage. La grande masse de la population comorienne n'espère rien des politiques qui sont coincées dans leurs intérêts. Elle investit dans la solidarité familiale et dans la migration proche ou lointaine. La reproduction sociale passe par le réseau familial déployé dans l'archipel et au-delà, dans une logique d'entraide pour scolariser les enfants, pour trouver un emploi, obtenir des soins médicaux, se marier et fonder une famille. Mayotte ne constitue qu'une ressource parmi d'autres. Le statut juridique des parents émigrés à Mayotte n'est pas évoqué aux Comores, mais leur aide arrive quand nécessaire. Des maisons en dur sont peu à peu construites dans les villages et les migrants font office de prescripteurs de développement quand ils sont, par exemple, les premiers à prendre un compteur d'eau là où de nouvelles adductions sont installées. La crise sociale actuelle à Mayotte est composée des ingrédients habituels de pauvreté et de cherté de la vie dans une économie tournée vers l'extérieur, important massivement de métropoles. Il y a aussi des problèmes liés à un changement social et moral, marqué par la crise de la famille, qui n'est plus compensée par les anciennes circulations d'enfants, quand ça ne va plus, ou les régulations villageoises, la déscolarisation, l'absence d'encadrement sportif et culturel de la jeunesse. À Mayotte, la question migratoire occulte la question sociale et en particulier celle d'une jeunesse en insécurité. Je reprends ici les termes de Rémi Carayol du Monde diplomatique en 2009 pour dire que c'est un terrible monde qui voit se concurrencer aujourd'hui, s'affronter demain et qui sait s'entretuer plus tard, les pauvres et les pauvrissimes. En 1903, le grand caricaturiste anarchiste de Grandjouan légenda un de ses dessins dans l'assiette au beurre, coloniser, c'est lancer deux misères l'une contre l'autre. Dure démonstration dans cet archipel 120 ans plus tard, le colonialisme à la papa a encore infesté bien des cerveaux parmi nos gouvernants. Et tout ça sous l'œil des politiciens qui, tout gouvernement confondu depuis 1975, dont deux présidents de gauche, ont organisé dans le pire des cas, laissé croître dans le meilleur cette catastrophe. Ce texte a été publié par la CIMAD. La CIMAD, si vous ne connaissez pas, c'est un organisme qui soutient les personnes qui n'ont pas les papiers désirés dans notre pays des droits de l'homme. Pour recontextualiser ce texte de l'année dernière, la CIMAD est à Mayotte depuis 2008. Aux côtés de toutes les personnes opprimées, elle a forcément dénoncé cette opération dirigée par Gérald Darmanin, non seulement qui ne réglera pas les difficultés auxquelles toutes les habitants sont confrontés, mais qui va aggraver la précarité de la population et exacerber les tensions sociales qu'elle prétend combattre. Je vous lis le texte. Mayotte se sent abandonnée et la population hurle son désarroi. Si la violence dénoncée par les habitantes est bien réelle, l'État se focalise sur une réponse répressive, vaine et préjudiciable. Sans formuler de réponse globale suffisante face à l'ensemble des besoins pourtant criants dans le 101e département français, aux défaillances structurelles du service public pour favoriser l'accès aux soins et à l'éducation, pour assurer une distribution d'eau potable et satisfaisante, pour garantir l'inclusion de toutes et tous, face aux besoins de résorption de l'habitat insalubre et d'accès au logement digne, il déploie des tractopelles et jette des familles à la rue. À Mayotte, encore plus qu'ailleurs, l'immigration est présentée comme responsable de tous les maux et sert de justification à un régime particulièrement attentatoire aux droits et à la dignité humaine. Elle détourne le regard des véritables enjeux structurels du territoire, nourrit l'amalgame entre insécurité, délinquance et immigration et a conduit au déploiement d'une opération policière et militaire qui porte à son paroxysme l'enlisement de l'État dans une spirale sécuritaire et répressive. Elle attise la violence qu'elle prétend combattre et n'a pas sa place dans un État de droit. Ainsi, alors que cette opération prévoit d'augmenter de façon exponentielle le rythme des reconduites à la frontière, la CIMAD exprime sa plus vive inquiétude. L'année passée, ce sont déjà 27 643 personnes qui ont été enfermées à Mayotte, dont 2905 enfants. L'empressement avec lequel sont réalisés ces éloignements rend impossible l'exercice des droits des personnes pourtant protégées contre une expulsion en l'absence de recours effectif des tribunaux. L'opération Wambushu risque de renforcer les pratiques illégales visant à éloigner sans ménagement des mineurs isolés, malgré la condamnation de l'État par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses pratiques de rattachement arbitraire d'enfants à des adultes tiers en vue de leurs expulsions. Si la machine s'est enrayée la semaine dernière avec le refus de la réadmission des personnes expulsées vers l'Union des Comores, et si ces dernières replacées en rétention administrative par la préfecture ont toutes été libérées par la juge des libertés et de la détention en raison de l'illégalité de cette procédure, il est à craindre dans les jours à venir que l'emballement qui accompagnera la reprise de la politique du chiffre des éloignements la rende incontrôlable et porteuse de nombreuses violations des droits. Inquiétude confirmée notamment à travers la récente ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte en date du 29 avril 2023, il y a un an donc, sur la création de locaux de rétention administrative temporaire dont le but est d'éloigner toujours plus avec le moins d'accès aux droits possible. Le tribunal y confirme que les conditions de détention dans les locaux de rétention administrative régulièrement créés par le préfet de Mayotte ne permettent pas aux personnes retenues de contester utilement leur éloignement et leur rétention administrative et portent ainsi une grave atteinte manifeste illégale au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Alors que plane sur la fin d'année le spectre d'un nouveau projet de loi d'asile et d'immigration et une réforme prévoyant à Mayotte une nouvelle offensive contre l'accès à la nationalité française, l'arsenal répressif poursuit son avancée inexorable, écrasant sur son passage les espoirs d'une vie meilleure pour les habitants et habitantes de Mayotte. Depuis, malheureusement, nous pouvons savoir tous que cette loi immigration est passée, qui est la loi la plus xénophobe et répressive depuis la guerre d'Algérie. La situation ne s'est pas améliorée, puisqu'il y a un effet simple, les gens ne disparaissent pas d'une île, et la mise en rétention, c'est-à-dire la mise en prison, parce qu'on n'a pas les bons papiers, donc on y met, comme je vous le disais, des enfants, et des familles, eh bien cette mise en rétention ne règle aucun problème social. C'est donc aggravé depuis un an ce que les gens appellent l'insécurité, puisqu'il faut savoir que c'est une réalité terrible à Mayotte. Le quotidien est fait de coupage de route, de caillassage de voitures, d'incendies de véhicules aussi, et les gens ne savent plus comment se sortir de ces spirales-là. Pour certains, c'est le signe que Wambushu n'est pas allé assez loin, comme si la solution de l'insécurité était encore un peu plus de violence coloniale. Mais comme l'explique Bruno Desilles, secrétaire départemental de la CGT Éducation à Mayotte, l'opération n'a été qu'un coup de force irréfléchi. Il faut accompagner ces personnes dont le logement a été détruit, régler l'accès à la santé, à l'éducation, aider cette jeunesse qui est laissée depuis des années sans solution, qu'on maltraite et qui trouve en la violence son seul moyen d'expression. En réalité, c'est même Wambushu qui aurait pu attiser ces vagues de violence, d'après un jeune anonyme témoignant pour le journal de Mayotte en décembre 2023. Beaucoup des jeunes participant aux violences sont des mineurs nés à Mayotte, donc français, dont les parents ont été expulsés vers les Comores et qui se retrouvent sans famille. De l'aveu même de la porte-parole des Forces Vives, les collectifs citoyens mobilisés pour qu'il y ait des expulsions et pour plus de réformes à Mayotte, il manquait un volet social, comme elle dit, à l'opération Wambushu qui a été menée par Gérald Darmanin, et tous ces effets ont continué à exister. Sur le site de Survie, toujours, on trouve des textes passionnants. Et voici un texte à propos de cette question du droit du sol. À Mayotte, les Comoriens ne sont pas des étrangers. Ce dimanche 11 février 2024, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce sa volonté de mettre en place une réforme constitutionnelle pour obtenir la fin du droit du sol à Mayotte. Il s'agit d'une aggravation d'une législation déjà exceptionnelle à Mayotte, censée régler une situation considérée par l'État comme délétère, mais qui est née du fait colonial imposé par la France aux Comores. Cette initiative du ministre de l'Intérieur est aussi un danger majeur et plus général pour le droit du sol. Cette initiative est perçue comme une opportunité pour des commentateurs et partis d'extrême droite rêvant déjà d'étendre cette mesure à la France métropolitaine. Mayotte fait historiquement partie de l'archipel comorien. En 1975, la France a manœuvré pour maintenir sa souveraineté sur Mayotte au moment où le reste des Comores devenait indépendante. La communauté internationale n'a jamais reconnu officiellement le rattachement de Mayotte à la France et l'a condamné par une vingtaine de résolutions de l'ONU. Vous savez, ce même genre de résolution qui condamne ce que fait Israël en Palestine et dont on espère fortement les actions, mais en fait qui ne servent jamais à rien. Depuis, un fossé croissant s'est créé au sein de l'archipel. Le développement de l'Union des Comores s'est trouvé enrayé par une politique néocoloniale violente et caricaturale, personnalisée par la mainmise du mercenaire Bob Denard de 1977 à 1995. Je m'excuse pour les oreilles de billets d'Afrique à qui je n'ai pas encore parlé. Bob Denard, c'est une grossière erreur. Bob Denard, vous savez, c'est le vilain dans les histoires, le vrai méchant, celui dont on a directement envie de se débarrasser. Eh bien, Bob Denard, c'était le méchant qui faisait les sales affaires de la France-Afrique pour qu'elle puisse perdurer. Et que je fabrique un coup d'État par ici et que je pille les ressources par là, voilà son œuvre. Même si les tensions sont extrêmes sur le territoire maoré et que le bouc émissaire désigné depuis plusieurs décennies est l'immigré comorien. En droit international, Mayotte fait partie des Comores. C'est donc la politique coloniale française qui est la première responsable de la situation actuelle. Car à Mayotte, les Comoriens ne sont pas des étrangers. détail important avant de partir, c'est que les discours, ceux qui paraissent dans les médias, sont bel et bien des discours xénophobes qui nous rabâchent qu'il faut pousser dehors les étrangers. Mais tout ce que je raconte, c'est bien facile à dire depuis le plus petit studio de Fréquence 7 où je suis, alors que je ne suis pas coincée sur une île où l'on manque d'eau, d'argent et où on craint de se faire caillasser. Donc forcément, je parle avec des principes humanistes et anticoloniaux et je ne peux pas me rendre compte de ce que vivent les personnes sur place et dans quel enlisement mental ils se retrouvent pour pouvoir vouloir lutter contre leurs voisins, leurs frères, en se disant que là sera leur salut. Le drapeau français a toujours bien su se vendre et dresser les uns contre les autres. J'espère que le monde aura changé d'ici à ce qu'on se retrouve pour la prochaine émission. Malheureusement, je n'y crois pas complètement. En tout cas, continuez de porter de l'analyse, d'écouter, de diffuser et de vous parler entre vous, puisque c'est par l'éducation populaire qu'on finira par tordre le cou à ces vieux réflexes coloniaux. Je vais vous laisser avec Zili, une artiste comorienne de Mayotte, qui nous chante son enfance, ses souvenirs de son île et comme elle a aimé où elle a grandi. Voilà, portez-vous bien.
Yeah, come on. See, come, titi, titi.